Actu SF, les podcasts.
Alors, donc, je m'appelle Marie-Charlotte Delmas, vous le savez sûrement. Je suis sémiologue de formation. Je travaille depuis plus de 20 ans sur les croyances populaires liées au surnaturel. Et je viens de publier. Je vais les chercher. Je viens de publier donc la somme de mes recherches, en fait, sous la forme de deux dictionnaires. Un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de la France mystérieuse et qui regroupe les croyances populaires et les superstitions. Croyances populaires liées aux rites, par exemple, de mariage, de naissance, rites funéraires, etc. Les grandes fêtes religieuses, leur origine, trèfle à quatre feuilles, toute la médecine magique, la météorologie magique, les dictons. Voilà, une espèce de magie en fait au quotidien qui était celle de la France rurale jusque dans les premières décennies du XXe siècle. Je dis première décennie du XXe siècle parce que je me suis arrêtée là, parce que là on y retrouve des croyances qui sont celles que l'on peut aussi retrouver dans des textes du XVIIe ou du XVIe siècle, et quand on en a dans des textes plus anciens, des petites coquilles, des petites apostrophes comme ça qu'on va retrouver ici et là, et qui nous montrent qu'en fait les rituels et les croyances avaient très peu changé. Je sais néanmoins qu'aujourd'hui, ici et là, on continue ce type de rituel, mais moi, ça fait pas partie de mon corpus de recherche, ça ne m'intéresse plus, soit ce sont les mêmes et ça ne m'intéresse pas, soit elles sont différentes et ça ne m'intéresse pas plus. Donc voilà, donc pour la France mystérieuse, et le deuxième s'appelle donc le dictionnaire de la France merveilleuse, et là, donc, il s'agit du légendaire, en fait, français, tous les lieux dans lesquels on va retrouver des légendes, ainsi que toutes les espèces de fées, de lutins, les espèces de revenants et de fantômes, et les lieux, dolmens, menhirs, châteaux, etc., dans lesquels on peut retrouver ça, avec un index à la fin, qui permet, quand on est dans un lieu, de voir si des fois il n'y aurait pas la légende accompagnant tel menhir ou tel dolmen, etc. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux dernières publications. Donc je vais aujourd'hui vous parler donc des fées des Vosges. C'est une intervention que j'ai préparée spécialement pour les Imaginales, vous en doutez, les Vosges. Et donc j'ai trouvé une carte. Alors c'est la carte des paroisses en fait des Vosges. C'était la seule qui était de bonne qualité. Où on voyait bien le nom, mais là, bon, l'écran est petit, donc on voyait bien le nom des lieux, qui m'a permis de placer toute une série de lieux qui portent un nom dans lequel il y a fée dedans. Un arbre aux fées, une grotte aux fées, une roche aux fées, voilà. Certains, vous allez le voir, ont des légendes. Beaucoup n'en ont pas, parce que tous ces collectages, en fait, sont faits au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, eh bien, il y a des lieux pour lesquels on a oublié la légende, voire des lieux que l'on va appeler quelque chose aux fées, parce qu'il y en a d'autres dans la région, et qui donc ont une appellation assez récente et qui ne possèdent pas de légende. Donc avant de vous parler des fées vosgiennes, je vais vous donner quelques généralités pour mieux comprendre ce que sont les fées dans les collectages du 19e, qui ressemblent, je vous l'ai dit, à ce qu'on retrouve dans les siècles précédents. Donc ces récits sur l'existence des fées, souvent l'existence passée des fées, sont collectés, relevés partout en France au 19e siècle. Il y a des régions qui sont très très bien collectées, c'est le cas par exemple de la Bretagne, où il y a une dizaine de folkloristes. Sur la Lorraine, c'est moyennement collecté. On a un folkloriste qui est Léopold Sauvé, François Léopold Sauvé, qui va publier le folklore des Hautes-Vosges, mais dont les propos sont pas toujours... c'est un peu pipoté des fois. Et surtout, donc lui, c'est 1889. Et surtout, un autre folkloriste, dont on ne connaît que le nom, Richard, et qui, lui, en 1848, fait un folklore de la Lorraine qui est assez complet. Donc, ce sont les deux qui vont faire des monographies. Ensuite, il y a aussi d'autres folkloristes qui vont publier, lorrains, qui vont publier quelques travaux dans la Revue des Arts et Traditions Populaires, qui est, au XIXe siècle, pendant 30 ans, la revue de référence du folklore et des croyances populaires. Donc, les auteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance vont puiser l'origine des faits, parce qu'ils vont se demander pourquoi donc il y a ces histoires de faits, et on va les rechercher. Donc, les auteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance, pour eux, les faits, ce sont des êtres surnaturels, donc féminins, qui découlent des croyances romaines, c'est-à-dire ce sont des nymphes, pour les fées des bois, par exemple, des dryades ou des amadryades, qui étaient les fées des arbres, etc., des sirènes pour les fées de mer, et puis des Néréides aussi, et puis il les rattache également aux parques. Donc les parques sont des déesses du destin. Homère, dans l'Odyssée, évoque la noire parque, mais Hésiode, plus tard, fera trois parques qui tissent le destin des hommes, le fil et le coupe. Voilà. Et donc, ces tria fata vont être assimilés, enfin les fées vont être assimilés à ces triafata, elles sont trois. Vous entendez fata, fatum, le destin, fée vient du latin fatum, destin. Donc le rattachement au parc n'était pas du tout idiot. Pour les théologiens et les démonologues de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, ceux qui vont se livrer à la chasse aux sorcières, dont je rappelle toujours qu'elle aboutira à la mort de plus de 100 000 personnes en Europe pour des absurdités, des gens dénoncés par leurs voisins. Et donc, ces démonologues, pour eux, toutes ces anciennes divinités, y compris ces fées, ces lutins, etc., sont des démons. Voilà, démons de l'eau, démons de l'air, etc. Donc, on va s'apercevoir que dans les légendes, ces récits des démonologues, qui étaient quand même relayés régulièrement par les sermons des curés à la messe du dimanche, ces récits vont fortement imprégner la mémoire collective. Ce qui fait qu'on va retrouver dans les récits populaires, les récits populaires, ce sont soit des témoignages, c'est-à-dire on appelle ça des mémoras, un témoignage de mémoire. Ma grand-mère disait que... machin, ou la voisine disait que machin, parce que c'était sa mère qui lui a raconté. Voilà, donc c'est des espaces de mémoire. Après, il y a des contes populaires qui sont plus contes, et moi, je ne les retiens pas quand il n'y a pas d'indices qui peuvent renvoyer à un rituel. Je ne les retiens pas. Mais au XIXe siècle, on va ajouter à l'origine des faits, parce que l'archéologie fait son chemin, on va ajouter les Matronae gauloises, qu'on va retrouver aussi en statue, soit seule avec un bébé dans la main, enfin dans les bras, comme ça, assise, à l'image de la Vierge. Alors, beaucoup de statues comme ça, ou alors on va les retrouver par trois, à l'image des parcs, avec des cornes d'abondance, des couronnes de fleurs, de fruits, etc. Et donc, du coup, on va vers les Gaulois. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les historiens pensent que les dolmens, les menhirs, etc., sont gaulois. Voilà, et que les druides, alors que, bon, on apprendra bien plus tard qu'il s'agit de monuments qui datent du néolithique. Alors, ces fées, quel est leur portrait? Eh bien, partout en France, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques de ces fées. Elles sont de taille humaine. Quand on peut les voir, elles sont vêtues à la mode paysanne, à la mode de l'époque. Certaines sont vêtues, certaines et même pas mal selon les régions en Alsace, un petit peu moins en Lorraine. On retrouve beaucoup de fées vêtues de blanc, les fameuses dames blanches qui après migreront dans la catégorie des fantômes, mais qui au départ sont des fées. Donc elles sont robes blanches. Elles sont parfois des espèces de formes humaines brumeuses, soit de taille humaine, soit géante. C'est le cas des demoiselles du Berry, par exemple, ou de quelques fées en Normandie. Et donc là, bon, on se doute bien que c'est au lieu des étangs. On a quelques rares petites fées, à l'image des lutins, donc des fées un peu minuscules, comme les damettes de Provence, ou dans le midi de la France, et essentiellement dans le midi de la France, où on va avoir des fadas, c'est-à-dire des fées, ou des hadas, qui sont petites. Alors voilà pour le portrait. Ah oui, vous dire aussi que quelques fées possèdent une partie animale. Alors c'est le cas évidemment des sirènes, dont la plupart, mais pas toutes, hein, ont une queue de poisson dans la seconde moitié du corps. Les sirènes sont des êtres surnaturels auxquels on a cru en Bretagne encore au début du XXe siècle. Et rarement, elles ont une queue de serpent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une queue de poisson, elles ont la deuxième partie du corps en serpent. C'est le cas, par exemple, de la grande fée Mélusine du Poitou, qui a une queue de serpent. Et c'est le cas aussi de très vieilles encantadas, des enchantées de l'Ariège. Alors, comment on les appelle, ces fées, ces entités féminines? Ben, je vous ai dit que le terme fée, donc, renvoyait à Fatum, avec la notion de destin. Mais en fait, au départ, ce terme fée n'est pas employé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on est faé, c'est-à-dire qu'on est enchanté. Donc il y a une dame qui est enchantée, elle est faé, ou un chevalier qui est faé. Et ensuite, ces femmes faées vont devenir des faées tout court, c'est-à-dire des fées. Et au fur et à mesure de l'histoire. Et elles vont prendre, pareil, au fil des siècles, elles vont prendre des noms. Alors les dames, au Moyen-Âge, donc il y a des dames faées, les demoiselles faées, donc des dames et des demoiselles. Et ensuite, on va avoir dans chaque, dans les collectages, en tout cas, on se rend compte qu'on a dans chaque province des fées qui ont des noms différents. Et par exemple, je parlais des hadas des Pyrénées, mais qui est le patois de fées, donc il y a toujours cette notion de destin, ou plus étrange, les Laminia du Pays Basque. Donc Laminia, c'est le Laminiac, c'est le pluriel de Lamina, et donc qui sont des fées qui ont des pattes d'oie, par exemple, comme le diable, puisque au Moyen-Âge, on donnait au diable des pattes d'oie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les Vosges? Eh bien, dans les Vosges, on a des dames vertes. Voilà. On a des fées dont on ne sait rien. On sait qu'il y a une roche aux fées, il y a une légende. Si, on verra à Landaville, il y a des fées transparentes. Mais les dames vertes sont des fées que l'on retrouve principalement en Franche-Comté et un petit peu moins dans les Vosges. Elles sont excessivement méchantes. Donc, on suppose qu'il y a eu des discours religieux sur ces fées et qu'elles sont devenues un peu démoniaques. Et donc, je vais vous lire les quelques lignes qu'écrit Léopold Sauvé à leur propos. Donc, il dit en 1989, « Les dames vertes que l'on aperçoit au fond de mystérieuses retraites dans les bois, le long des cours d'eau, comme celles dont parlent encore les gens de Martinpré, entre Gérardmer et Écorcieux, et qui se montraient à minuit sur le pont de la Vologne. » Malheur aux voyageurs attardés qui venaient à passer à pareille heure en ce lieu, ils connaissaient tôt la sueur et l'angoisse. À peine avaient-ils mis le pied sur le pont qu'une dame verte, toute verte, se dressait devant lui, l'entraînait au seau des cuves. Les cuves sont une, vous connaissez peut-être une série de cascades à Xonrupt, je ne sais pas si on dit comme ça, et le saisissant par les cheveux, le balançait au-dessus d'une cascade. Quand le pauvre air était devenu blême, avait bien tremblé, bien recommandé son âme à Dieu, elle courait le déposer à la place où elle l'avait pris et disparaissait en déchirant le silence de la nuit par un long éclat de rire. Très bien. Voilà. Donc, voilà pour les dames vertes des Vosges. Dans les récits franc-comtois, elles sont aussi très méchantes, ces dames vertes. et très séductrices. En fait, elles sont belles, comme ça, elles séduisent les hommes, et puis dès qu'elles ont séduit un homme, tout d'un coup, elles deviennent laides, méchantes, elles l'entraînent, elles essaient de le noyer, enfin bon. Donc, on a certaines fées, très très rarement, ont un petit nom. Et il se trouve que dans les Vosges, il y a une fée célèbre, donc au 19e siècle en tout cas, mais dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Erkeuche. Ça vous dit quelque chose, la fée Erkeuche ? Alors, elle est décrite comme une fée alors, malfaisante, grande, raide, sèche, édentée, cachant sous un large chapeau de paille sa tête privée de cheveux et sous des guenilles immondes son corps décharné. On se doute encore une fois, et vous allez voir qu'on en a la preuve après, qu'on a là un sermon religieux qui est passé entre deux. Donc elle, en fait, voilà pourquoi elle punit ceux qui ne respectent pas certaines observances magico-religieuses liées à des fêtes chrétiennes. Par exemple, si l'on fait du pain entre Noël et le jour de l'an, ce qui est absolument interdit encore au XIXe siècle, eh bien, Erkeuche va venir châtier les gens qui font du pain. Si on fait la lessive pendant l'octave de la Toussaint, parce qu'à l'époque, la Toussaint, c'était 8 jours, et donc pendant cette octave de la... Eh bien, pareil, on va être puni par Erkeuche, et pareil si on fait du pain pendant cette période. Voilà. Donc là, on retrouve un tabou qui va accompagner... Les traditions françaises du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, un tabou sur les grandes fêtes religieuses où on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, de travailler bien sûr, mais aussi de faire du pain, de faire la lessive, etc. Alors, il y a aussi une légende sur cette fée. On raconte qu'à Martinpré, durant ces deux périodes, donc Noël et la Toussaint, Erkeuche venait piétiner le linge des femmes qui venaient faire leur lessive dans le lac et leur donner des coups de battoir sur le dos. Lassées d'être martyrisées par la fée et après le décès de l'une d'entre elles, les femmes décidèrent de se venger. Elles l'assommèrent à grands coups de battoir et la noyèrent dans le lac. À dater de ce jour, on entendit les gémissements d'Erkeuche sortir des profondeurs de l'eau. Mais en 1609, la construction d'une petite chapelle dédiée à Sainte-Anne mit fin aux lamentations de la fée. Alors, on peut être sûr d'une chose, c'est que dans la mesure où le processus de christianisation a été très long chez les paysans, et quand je dis paysans, je parle des gens du pays. Paysans, en fait, ça veut dire païens. Donc, ils ont été très, très christianisés très, très tardivement, par rapport aux bourgeois des villes, etc., puisque le christianisme, au départ, est une religion assez bourgeoise, on va dire, en tout cas, qui est reprise par les gens des villes, et donc à Rome, comme partout ailleurs. Et donc, du coup, quand vous avez une chapelle dans un lieu comme ça, n'importe où, enfin, près d'un lac, machin, vous pouvez vous dire qu'on avait là, vraisemblablement, un lieu païen, c'est-à-dire qu'il y avait probablement un petit temple ou qu'il y avait une divinité païenne, et que c'est cette divinité païenne qui, qu'on ne connaît pas bien entendu, cette divinité païenne qui va donner lieu à ce souvenir d'Erkeuche, et que cet Erkeuche évidemment sera présenté comme un démon et qu'on va l'exorciser par la chapelle. On verra tout à l'heure que c'est ce qui s'est passé aussi à Don Rémy par exemple. Alors, l'habitat des fées, donc on va arriver à notre carte. Donc, les fées terrestres habitent le plus souvent dans des grottes ou dans des rochers. Alors, des rochers qui peuvent faire comme une petite excavation. On peut avoir des abris sous roches qui sont des roches qui affleurent, etc. Voilà. Elles sont dans les pierres. Ces lieux peuvent être isolés. Ou beaucoup plus près, en Bretagne par exemple, elles sont assez près des humains, partout ailleurs, elles sont surtout dans des lieux isolés. Elles vivent soit seules, soit en tribu. Il y a très rarement des hommes. En fait, des hommes, on n'en a qu'en Bretagne, près des Côtes d'Armor et au Pays Basque, et ils ont un rôle tout à fait secondaire, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent que très rarement dans les récits. Et voilà, elles vivent aussi donc sous les mégalithes, dans les sous les menhirs, sous les dolmens, et on va le voir, on dit aussi que ce sont elles qui les ont édifiés. Alors justement, alors on a aussi des faits aquatiques, mais on en a assez peu, mais on a des faits de fontaines. Voilà. On sait que les fontaines, ce qu'au XIXe siècle on a appelé le culte de la nature, concernait les fontaines sacrées, les arbres sacrés et les pierres sacrées. Et donc, on sait que les fontaines étaient des lieux sacrés. D'ailleurs, on a énormément de fontaines guérisseuses en France. Au XIXe siècle, il y en a pratiquement dans tous les villages. Et donc, du coup, ces fontaines, elles vont être christianisées. Et elles vont être christianisées, c'est-à-dire qu'on va leur mettre un nom de saint, la fontaine Saint-Pierre, la fontaine Sainte-Agathe, la fontaine machin. Souvent, ce nom de saint va être en rapport avec la maladie qu'elle guérissait avant. Par exemple, si on allait à cette fontaine pour se guérir les yeux, on va l'appeler la fontaine Saint-Clair. Si les estropiés y allaient, ça va être Saint-Eutrope, patron des estropiés, etc. C'est-à-dire qu'on va trouver des noms. Donc, les paysans, eux, ils continuent les rituels, les mêmes qu'avant. Ils les font à Sainte-Eutrope ou à Sainte-Claire, ils s'en fichent. De toute façon, ils continuent le même rituel. Mais la fontaine est christianisée. Donc, il y a beaucoup en France de fontaines aux fées. C'est-à-dire de fontaines où les anciennes divinités de l'eau sont devenues fontaines. Je voulais d'ailleurs faire une parenthèse anecdotique. C'est qu'encore aujourd'hui, les gens jettent des pièces dans les fontaines. Voilà. Et bien, en fait, ce geste, ils ne le savent pas, mais ce geste, en fait, c'était l'ancienne offrande qu'on faisait aux divinités de l'eau. Et aujourd'hui, partout, même en plein Paris, ou en plein Épinal, voilà, on va trouver des pièces et les gens font des vœux. Mais c'était exactement ce qui se passait dans l'Antiquité et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Même si on ne s'adresse plus à la divinité de la fontaine. Alors, la geste des fées, qu'est-ce qu'elles font, ces fées? Qu'est-ce qu'elles font de leur journée? Alors, la fée marraine des contes merveilleux est très rare. On la retrouve quasiment pas. C'est une fée plus littéraire que populaire. Même si on a quelques récits médiévaux où on a des fées qui protègent des héros, etc. Mais bon, on est dans du récit littéraire comme la quête d'Arthur, etc. On n'est pas du tout dans du récit populaire. Les paysans, ils connaissent pas ça, ils s'en fichent à Brocéliande, ils n'ont jamais entendu parler de rien, ils parlent d'autre chose. Et donc, mais en revanche, beaucoup d'entre elles enlèvent des enfants pour mettre à leur place un de leurs petits, qu'on appelle un changelin. Et donc, on ramène le petit à la grotte. On pense que c'était des enfants qui naissaient malades, estropiés, etc. Et où les parents disaient, c'est un enfant de fée, il faut le ramener là-bas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires en France et en Europe. Hein. Ce que je dis pour la France est valable pour pas mal d'êtres surnaturels ailleurs. Lorsqu'il y a une légende qui évoque leur activité quotidienne, eh bien, leur activité quotidienne, c'est celle des femmes de l'époque. Elles tissent, elles filent, elles font la lessive, elles font la cuisine. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve. Ceci dit, ce sont aussi de grandes bâtisseuses. Qualité qu'elles partagent avec le diable. Le diable qui, comme les fées, va même jusqu'à construire des églises. Et ce qui est très surprenant, par exemple, c'est qu'on a des grands dolmens, on a des grands menhirs, etc. On a des géants en France, dont on se dit, bon, ben voilà, on va trouver une légende de géants. Ce sont les géants qui ont construit ça. Pas du tout. Les géants, ils construisent quasiment pas. Gargantua, la seule chose qu'il fait, c'est perdre des graviers dans son soulier qui deviennent des rochers, des machins, etc. Et donc, ce sont les fées qui, la plupart du temps, sont citées. Très peu les lutins, un petit peu à Carnac, mais très peu les lutins. Ce sont les fées. Donc, ce sont de grandes bâtisseuses. Ensuite, elles ont des loisirs, ces fées. Figurez-vous qu'elles dansent. Elles dansent en rond, comme les nymphes, en fait, de l'Antiquité, et comme beaucoup de... Enfin, cette ronde, on la retrouve dans énormément de traditions religieuses. Et on appelle ça la circumambulation. Il y a ça dans le bouddhisme aussi, par exemple, autour du tupa. Et donc, voilà, c'est une danse où vous êtes à la queue leu-leu, comme ça, où on danse en rond. Voilà. Et donc, une fois qu'elles ont dansé, elles laissent sur le sol des ronds de fées. C'est-à-dire qu'on voit la trace de leurs pieds, parce que l'herbe est un peu brûlée, etc. Et on dit, attention, là, il y a des fées. Alors, ces rondes de fées, selon les régions, il faut les craindre. C'est le cas en Lorraine. Et dans les Vosges, on craint les ronds de fées, alors que dans le Berry, par exemple, ce sont des lieux protecteurs. Si on a peur de la venue du diable ou d'un animal fantastique, on fait rentrer les bêtes et machin dans le rond de fées. Et on est protégé. Ces ronds aussi peuvent être des ronds de sorcières au sabbat, puisque les sorcières au sabbat dansent aussi en rond. Enfin, on prétendait que les sorcières, dans les prétendus sabbats, dansaient en rond, on va dire. Hein. Voilà. Parce qu'on sait quand tout ça a été créé, par qui, et voilà. Donc, donc on a une vaste étendue de pâturages et de broussailles qui couronne la haute montagne du Honeck, était, dit-on, dans les anciens temps, hantée par des fées qui venaient y danser sous la lune pendant les nuits d'été, d'où viendrait le nom qu'elle porte, qui est le nom de haute fée. Ce nom de haute fée est assez ancien, puisqu'on l'a retrouvé dans les archives communales de la Bresse. Voilà. En 1848, deux métairies ou fermes de cette commune, donc de la Bresse, portent encore le nom de Maison des Fées et de Roche de Minuit. Enfin, on raconte donc que les fées ont disparu à partir du moment où on a sonné les cloches, où on a sonné l'Angélus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la religion va commencer à s'imposer avec des églises et donc des cloches, etc., les fées vont disparaître. Alors elles vont disparaître, on ne sait où, mais dans les Vosges, on raconte, il y a une légende qui dit qu'en fait les fées se sont transformées en taupes et que c'est pour ça que les taupes ont de petites mains, parce qu'en fait ce sont d'anciennes fées qui se vengent et, en ravageant les villages, les jardins, les potagers, etc., des gens. Voilà, donc pour retrouver la trace des fées, on a trois pistes. La toponymie, puisqu'on a beaucoup de dictionnaires toponymiques au 19e, au début du 20e, où on relève tous les noms de lieux, donc on va retrouver effectivement des roches aux fées, des grottes aux fées, etc. Et on a donc ces mémoras, ces récits, ces témoignages, et on a les contes populaires que j'ai laissés de côté. J'en ai gardé, je crois, juste un ou deux pour vous montrer ce que c'est, mais voilà. Alors, sur la carte, alors, du coup, on voit assez mal parce que l'écran n'est pas très grand. Il aurait fallu celui d'hier, là, pour le coup. Et alors, j'ai mis en marron les grottes. Donc ces marrons-là, ce sont les grottes. À défaut de pouvoir lire les noms, on voit au moins... voilà. Les violets, ce sont les rochers, qui s'appellent roches aux fées ou rochers aux fées. Qu'est-ce qu'on a encore? Les rouges, je crois que ce sont les monuments, je ne sais plus. Les monuments construits par des fées... sont en orange. Il s'agit beaucoup de ponts que j'ai mis du coup en rouge. Je ne sais pas si on distingue le orange du rouge, oui quand même. Voilà. Les fontaines sont en bleu clair et les ruisseaux en bleu foncé. Mais des ruisseaux, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà, donc ça va vite. Donc voyons ce que sont ces faits par habitat. Donc par habitat. Ça me gêne. Vraiment. Merci. Dans la mythologie gréco-romaine, je vous le disais tout à l'heure, on a les dryades et les amadryades qui sont attachées aux arbres. Hein. Les dryades sont des fées des bois, les amadryades sont vraiment, incarnent vraiment l'arbre et meurent avec lui. Et donc, on va retrouver beaucoup de fées sylvestres. Comme les nymphes, d'ailleurs. Hein. Alors ça, je vous l'ai dit. Bon, donc dans les lieux qui se rattachent à ces arbres aux fées, on a tout au bout là-bas Don Rémy la Pucelle. Don Rémy. Donc à Don Rémy, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre aux fées. Et cet arbre aux fées, il était situé près d'une fontaine, donc qui est en bleu. On voit le bleu et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là. Et donc, près d'une fontaine qui s'appelait la fontaine aux fées et qui a été rebaptisée la fontaine aux fées Notre-Seigneur. C'est sous cet arbre, près de cette fontaine, que Jeanne d'Arc a entendu des voix dont elle dit être ceux de la dame aussi. Voilà. Donc, il y avait, alors on l'appelait aussi la loge des dames que je regarde. Donc, c'était un grand être donc, qui ombrageait cette fontaine christianisée. Et un compte-rendu du procès de Jeanne d'Arc rapporte que le curé du lieu se rendait chaque année près de cet arbre pour y chasser les mauvaises fées. Donc, si beaucoup de fées parcourent les bois, leurs demeures dans les arbres ou sous les arbres sont beaucoup plus rares. Mais on va trouver un exemple à Landaville. Donc, à Landaville, on a des fées qui sont légères et transparentes. Donc, c'est une espèce de fée qui demeure dans des cavités sous les racines des arbres. Elles ont plusieurs chambres et alors dans les récits qui sont évidemment enjolivés, on décrit la splendeur des lieux. Il y a un palais magnifique, il y a des lumières qui sont multipliées à l'infini, des miroirs. La nuit, elles sortent de leur antre pour aller danser. Elles sont très serviables avec les humains. Si elles trouvent une bête qui est égarée, elles la ramènent à la ferme et elles offrent, dit-on, de la tarte à ceux qui font le carême et des prunes aux moissonneurs. Donc on voit bien qu'encore cette notion de carême est une christianisation de ce morceau de légende. Alors on a une autre légende de fée à Courcieux. Donc à Courcieux, il y a des arbres qui sont, alors je ne sais plus si c'est le cas, j'ai cherché pas mal de lieux, je vous dirai ce qui existe encore ou pas, mais je n'ai pas trouvé à Courcieux, je pense que, bon, peut-être qu'il y a à moins que quelqu'un le sache, il y a des arbres, des espèces de chênes qui sont un peu difformes. Et donc, quand il y a quelque chose d'un peu bizarre, c'est le cas des pierres qui ont des formes bizarres et tout, voilà, on y met forcément du surnaturel là-dedans. Et donc, à Courcieux, du coup, on disait que le premier vendredi de la première lune qui suivait le dimanche de la Trinité, cette fée venait dans la forêt de Rapaille, c'est le nom de cette forêt, et qu'on l'a nommée Dame Agès parce qu'elle criait comme une pie. Et Agès, c'était le nom des pies. Une Agès, c'était une pie dans le dialecte local. Donc elle était respectée par tous les autres du bois, etc. Sauf les chênes, qui ne voulaient pas se prosterner devant elle. Et donc pour punir ces chênes trop orgueilleux, elle les a maudits et ils sont devenus tout biscornus. Voilà, c'est une légende explicative, probablement récente. Quand je dis récente, c'est 18e, 19e. Oui, oui, oui. Et voilà, 18e, 19e. Oui, probablement. Alors, deuxième habitat des fées, donc les grottes. Les grottes, elles portent le nom soit de grottes aux fées, soit de roches aux fées. Donc l'intérieur de ces grottes est rarement décrit et pour cause, il est évidemment parfois difficile de par des entrées réduites d'y pénétrer et en tout cas il est tabou d'y pénétrer. S'il y a des fées à l'intérieur, on n'y va pas. Éventuellement, on va déposer quelques offrandes devant la grotte, mais évidemment, on ne va pas rentrer dans la grotte. Donc on a dans la forêt de Sapois une caverne creusée dans un énorme rocher qu'on appelait la goulotte aux fées. Et donc, on disait que c'était l'entrée d'un souterrain qui menait à un palais merveilleux dans lequel il y avait un trésor. Il y a souvent des trésors dans les grottes aux fées ou les grottes aux lutins, donc dans lesquelles il y avait un trésor superbe, mais qui était gardé par un génie. Voilà. Donc, on a un mélange d'histoire traditionnelle et de contes populaires. On donne dans les Vosges assez peu de détails. Pourtant, il y a beaucoup... Vous voyez, il y a beaucoup de grottes qui portent le nom de grottes aux fées, mais on donne assez peu de détails, soit, comme je vous l'ai dit au début, que la légende est effacée, soit que l'appellation est récente. Il suffit qu'il y ait une grotte aux fées quelque part pour que peut-être une autre, on l'appelle aussi comme ça parce qu'il s'est passé un truc. On n'en sait rien et on n'en saura jamais rien. En revanche, on a une particularité dans les Vosges qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est qu'on a des grottes qui portent le nom de fours aux fées. Et ces grottes qui portent le nom de four aux fées, il y en a une à Ferdrup, il y en a une à Attignéville, au Ménil-Tillot, à Noroy-sur-Vair. Et elles ont pour particularité donc de four aux fées, ça veut dire qu'on y a des, à l'intérieur des fées qui font la cuisine. Et en général, on détecte les fées cuisinières à cause du fumet que l'on sent, de la même façon qu'on détecte les fées lavandières à cause des vapeurs qui s'échappent du linge. Et donc, du coup, dans ces différents lieux, on a une légende qui est à peu près similaire et qu'on retrouve en Franche-Comté. Et j'ai retrouvé une occurrence en Bretagne, mais je n'en ai pas retrouvé ailleurs. Alors que là, on en a quatre. Et donc, c'est voilà, des personnes, alors des laboureurs, des bergers, qui demandent aux fées ou d'avoir... oh, ça sent bon, on aimerait bien avoir un peu de ce gâteau ou un peu de ce pain ou un peu de cette tarte. La fée, les fées amènent le gâteau, la tarte ou le pain que le laboureur va trouver au bout de son sillon en refaisant un trait sur une nappe blanche, parfois avec un couteau qu'il faudra rendre. On a des histoires où il y a un vol de couteau et où donc la fée revient régulièrement rechercher son couteau, etc. Et donc on a quatre grottes vosgiennes dans lesquelles il y a ce type d'histoire. On a aussi dans la forêt de Villouxelles un ensemble de roches qui constituait un véritable village de fées. Donc on disait que chaque fée avait la sienne. C'était des roches en corbellement, donc qui faisaient comme des petites grottes. Et donc il y en avait une qui était plus grande et qui pouvait donc abriter une douzaine de personnes. Et on disait qu'elle servait de salle de réunion. À côté, à proximité, il y avait un petit terrain bordé de pierres qui était appelé le jardin des fées. Et c'est Bonne Dame. Bonne Dame, c'est une appellation qu'on va retrouver beaucoup dans les Vosges. Dame, Bonne Dame, hein, comme au Moyen-Âge. Elles étaient aussi des pâtissières. Et on retrouve aussi cette histoire de « je donne aux gens qui travaillent dans le coin un gâteau, ou un pain, une tourte ou quelque chose ». Voilà. Alors, une roche aux fées qui a donné lieu à une légende à Saint-Dié, sur le massif de l'Ormont. Il y a trois masses de grès de forme cubique. Et à leur pied, il y a une excavation très, très resserrée qui serait l'entrée d'une grotte de fées. Partout en France, quand on a une grotte avec une entrée resserrée, on est en fin de croyance. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de la croyance d'un... Quand les fées s'en vont, souvent elles deviennent plus petites et l'entrée de la grotte se resserre. Une façon un peu de fermer la porte, de la même façon que quand on a une superstition populaire auquel les gens ne croient plus, elle passe aux enfants. Et elle devient une forme de jeu enfantin. Comme si la diminution de la croyance aller vers la diminution de la personne et ou la diminution du lieu, ça c'est une constante. Donc, alors on disait que ces fées protégeaient les habitants de la ville et du val de Saint-Dié, et néanmoins ça n'a pas empêché les exorcistes de venir exorciser à de multiples reprises cette roche qui bien sûr était forcément une roche sacrée. Donc, voilà la légende. On disait qu'il y avait des lutins. Alors, les lutins vosgiens s'appellent des sauterets. Soit sauterets avec un E, S-O-T-O-T-R-E, ou sauterets E-T. Et donc, on disait que les sauterets n'aimaient pas les gens de la vallée, qui faisaient dégringoler sur eux des pierres, qui faisaient gonfler les torrents, qui passaient leur temps à être désagréables avec eux et assez méchants. Ce qui est plutôt rare chez les lutins, qui sont facétieux, qui font des blagues, qui en rigolent, mais qui ont un bon fond, voilà, généralement, en France, et même les sauterets. Et donc les fées s'étaient insurgées, évidemment, et elles avaient décidé de protéger cette vallée, parce que les sauterets s'étaient mis d'accord avec les lutins qui habitaient dans la montagne de Lormont, lesquels leur avaient dit qu'il y avait un grand lac intérieur et qu'ils allaient casser la montagne pour que ce lac intérieur vienne inonder la ville de Saint-Dié. Donc évidemment, les fées ont voulu protéger ça, et donc elles ont détaché leurs ceintures, elles ont noué les ceintures tout au long de la roche, et elles ont fait une espèce de cercle magique pour refermer la montagne. Et donc, depuis ce jour imaginaire, on disait que les fées protégeaient la ville de Saint-Dié. Et chaque année, le jour de la Saint-Charles, donc le 4 novembre, on faisait dire une messe dans la chapelle de l'hôpital de Saint-Dié pour conjurer le fléau, c'est-à-dire pour éviter que ce lac intérieur ne vienne causer des inondations. Et à l'issue de cette cérémonie, la corporation des forgerons allait à la montagne, et il y avait un des forgerons qui allait river un clou symboliquement dans la montagne de Lormont pour dire que l'on appelait d'ailleurs le cercle de Lormont à cause de ces fées qui protégeaient. Donc j'ai un témoignage d'une femme en 1878, vous voyez que c'est quand même pas si loin que ça, on n'est pas au Moyen-Âge. Une habitante de Saint-Dié qui raconte: on était en juillet, il avait plu 40 jours depuis la Saint-Médard, et les craintes les plus vives se manifestaient dans tous les milieux de la ville au sujet de la solidité du cercle entourant Lormont, la fameuse ceinture de fées. Ce jour-là, à 3 heures de l'après-midi, la pluie redoublait particulièrement de violence. Était-ce l'annonce d'une catastrophe ? Sœur Colombe fit agenouiller toutes les élèves et on pria avec ferveur pour écarter le danger de ce lac intérieur qui, bien sûr, n'existe pas. Donc, voilà pour les grottes. Pour les roches naturelles, donc en général, quand elles sont attachées aux fées, c'est qu'elles ont une forme particulière. On a, par exemple, la roche Son, une roche en forme de sphérique, conique, comme ça, comme un clocher, qu'on appelle l'église des fées. À la Bresse, on a le moutier des fées. Le moutier des fées, c'est un rocher qui ressemble à une église médiévale avec des colonnettes et des ogives. Moutier, ça vient d'un mot d'ancien français qui est le monastère. Donc, c'est un monastère des fées. À côté, il y a un amas de roches qui est appelé la sacristie, du coup, et on raconte que les fées venaient rondier, c'est-à-dire faire des rondes dans ce lieu, mais que le diable aussi y donnait des soirées et que les Bresseaux n'osaient pas y passer dès qu'il faisait nuit. Donc, je vous le disais au début, beaucoup de légendes en France disent que ces pierres, ces menhirs, ces dolmens, ce sont les fées qui les ont transportés. Et souvent, elles laissent tomber des pierres de leur tablier qui vont devenir d'autres menhirs, parce qu'elles portent ça, évidemment, dans leur tablier. Et elles filent en même temps pour la plupart des fées, mais pas dans les Vosges, bizarrement. Partout ailleurs, elles filent en transportant des matériaux. Alors, qu'est-ce que j'ai que je peux vous donner qui est rigolo comme légende ? Alors, Autoli, on a deux légendes de fées, et dont une légende où effectivement, enfin deux légendes, des détails de légendes où on raconte que ce sont les fées qui ont creusé et apporté le lieu qui s'appelle les Grandes Roches, dans lequel il y avait un souterrain très étroit et qui menait à l'habitation des fées. Alors, certaines pierres portent aussi une trace, là encore partout en France, du passage des fées. Alors, dans les Vosges, à Étival, on a les chaudrons de fées. Alors, les chaudrons de fées sont trois excavations rondes, sur une pierre, creusée par les pluies vraisemblablement, parce que la pierre doit être plus fragile. Et donc ces trois excavations, dont la plus grande fait 50 cm de diamètre, contiennent de l'eau. Et donc on raconte que ce sont les fées qui habitaient dans les alentours qui alimentait, qui mettait de l'eau, et que c'est elle qui les avait creusés pour avoir toujours de l'eau à disposition pour se baigner dedans, pour faire leur toilette. À Chénie-Ménil, on a une pierre qui s'appelle la Roche-Pierre-Fée et qui a aussi des petites cuvettes, on appelle ça des cupules, et des entailles. Et une légende locale raconte qu'en fait, c'est une fée qui s'est reposée sur cette pierre, qui a posé sa main, et l'empreinte de sa main y est restée. Ce sont les petites cupules que l'on peut voir sur la pierre. Et c'est une légende qui est relevée, celle-là, donc qui est encore connue en 1938. Aux environs des Rougeaux, on avait aussi des écuelles de fées, qui étaient pareil, des petites cavités présentes sur une roche. Mais là, les fées étaient méchantes, ces fameuses fées malfaisantes qui après vont se transformer en taupes et qui vont aller ravager les jardins. Alors, une légende assez rigolote à Cornimont. Alors, Cornimont, retenez le nom Cornimont, vous allez voir pourquoi. Donc, il y a une roche qui s'appelle la roche du Crat et qui serait le tombeau d'une fée et d'un chevalier. On a en France plusieurs tombeaux de fées. Et donc voici la légende telle qu'on la connaît au XIXe siècle jusque dans la première moitié du XXe. Au cours d'une chasse à l'ours et à l'auroch, dans le cirque boisé qui enveloppe Cornimont, un paladin de Charlemagne, égaré dans la forêt, rencontre une fée éblouissante de beauté et lui déclare sa passion. Ce thème-là, c'est un thème typique du Moyen-Âge. On le retrouve dans beaucoup de récits. Après une hésitation de courte durée, la fée vaincue par l'amour va suivre le chevalier et tout d'un coup, il y a un cri strident, la roche s'entrouvre et la roche va emprisonner la fée et le chevalier. Donc les engloutissements de personnes impies dans des roches, sous la terre, etc., on en a aussi énormément partout en France. Là, c'est une fée et un chevalier, mais bon, la fée est une personne impie, donc voilà, ça ressemble. Donc on dit qu'on entend toujours la plainte près de cette roche, etc. Mais l'anecdote, c'est qu'en fait, on conservait, et c'est sûrement ça qui a donné lieu à la légende, on conservait à l'hôtel de ville une corne énorme qui aurait appartenu à un auroch tué du temps des princes carolingiens. Donc il y avait une petite garniture d'argent sur cette corne et elle servait de signal de corne d'appel, on soufflait dedans, pour réunir les habitants de Cornimont. Et elle aurait disparu pendant la guerre en 1944. Voilà, nous dit-on. Mais bon, c'est curieux parce que la corne à Cornimont, mais bon, peut-être. Alors, on a aussi des pierres monumentales, c'est-à-dire que des constructions de fées qui sont véritablement des monuments et il en reste encore dans les Vosges. Par exemple, il reste, vous pouvez aller voir à Vieux-Ménil, le cuveau des fées. Donc, le cuveau des fées, c'est une pierre octogonale en forme d'auge de 3 mètres de diamètre qui... Si on vous dérange, je vous le dis. Il est arrondi à l'intérieur. Et donc, à l'extérieur, c'est un... Alors, moi, je l'ai vu hein, sur Internet. Bon, j'ai pas, la photo ne m'appartenait pas, donc je n'ai pas voulu la reprendre. Et donc, on raconte qu'en fait, ce cuveau des fées, c'était une espèce de baignoire et que les fées venaient s'y baigner. On a aussi à Uriménil un lieu qui est toujours nommé en 1938, un puits qui est nommé le Puits des Fées. Et donc ce puits a été utilisé jusqu'en 1877. Ensuite, il y a eu une fontaine publique. Mais selon la légende, les fées avaient construit ce puits en une nuit. Et là encore, que ce soit le diable ou que ce soit les fées, en principe, quand elles construisent toujours en une nuit. Le diable, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient l'interrompre et donc il ne peut pas terminer son travail. Il y a toujours un homme qui a fait le pacte avec lui, qui lui a demandé une construction. Des fois, c'est Dieu qui lui demande de construire une église ou un saint. Et voilà, et au dernier moment, il va se faire berner. Le diable populaire, il passe sa vie à se faire berner. Il est vraiment un pauvre gars. Un pauvre diable, oui, ben absolument. Ben l'expression, là, pour le coup, est bien trouvée. Alors, un autre lieu que vous pouvez aller visiter, à Ruaud, à 2 km du village. Donc, on a des ruines qui sont des pierres taillées recouvertes de mousse qui s'appellent le Château des Fées. on prétend encore une fois que les fées ont bâti ce château. Là, elles ont dû l'interrompre parce qu'en fait, elles arrivaient à l'aurore du jour de Noël et qu'on ne travaille pas à Noël. Là encore, on a un mélange de magico-religieux comme un peu partout dans toutes les superstitions. Mais parmi les... Alors là encore, c'est une caractéristique des Vosges, c'est que on a en France des ponts, énormément de ponts de diable. Hein, c'est-à-dire les ponts construits par le diable. Le pont, c'est lié au pontife, donc c'est un symbole très important qui relie deux territoires entre eux. C'est très souvent le diable qui construit les ponts. Mais les fées sont aussi des bâtisseuses de ponts. Et dans les Vosges, on a, alors ils sont en rouge, on a beaucoup, enfin on a je crois 4 ou 5 ponts de fées. Donc voilà, moi je me demande si ce sont réellement des légendes anciennes ou s'il y avait un pont de fées et qu'après d'autres ponts un peu particuliers ont été appelés ponts de fées parce qu'ils ne sont pas très loin les uns des autres. Ou alors si effectivement ils étaient tellement surprenants qu'on les a attribués à des fées. Parce qu'en fait, les nouvelles constructions, y compris les nouvelles églises, les châteaux médiévaux, tout ça était très, très, très impressionnant pour les paysans, très merveilleux. Et donc, les choses merveilleuses, on les attribuait à des êtres merveilleux et surnaturels. Donc, des ponts des fées, on en a un à Bain-les-Bains. On pense... On peut le voir, oui, on peut... Oui, voilà, Voivre, entre Voivre et absolument, et Bain-les-Bains. Et aujourd'hui, les pierres sont enfouies, donc on ne voit plus véritablement le pont. On pense que peut-être il y avait une voie romaine qui menait de Voivre au terme de Bain. Mais bon, on n'en sait rien. En 1938, le fameux Pierrot, là, qui a fait une étude sur les lieux des Vosges, enfin un dictionnaire topographique, dit que le pont vient d'être détruit. On a un autre pont à Raon-l'Étape, on dit comme ça ou on dit Raon-l'Étape, je suis du sud moi, Raon-l'Étape. Donc là c'est un pont dont on sait qu'il est du XIIIe siècle et qui était un pont de bois, dit-on, où seuls les ducs pouvaient passer pour aller dans le château médiéval et donc qui a pris le nom de pont des fées. On a un pont des fées aussi au Val d'Ajol. Donc, on le trouve encore en 1848 sur le plan cadastral. Donc, on sait là pour le coup qu'il est au moins antérieur à 1848. Mais bon, voilà, on se pose aussi quelques questions. On a un pont des fées à Gérardmer. Et là, on peut le voir aujourd'hui parce qu'il a fait une inscription à l'inventaire des monuments historiques. Et il a été construit... dit-on en 1763, donc les faits sont récentes, il s'appelait le pont des Fies, F-I-E-S. Et donc on dit que c'était des épicéas ici dans le coin, que ce serait plutôt le pont des épicéas dont on a fait, de pont des Fies, on a fait le pont des fées. Bon, voilà. Mais si vraiment il a été construit en 1763, là, les fées, on en parle, on y croit, mais parce qu'elles ont vécu. Mais il n'y a plus beaucoup de témoignages. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a plus beaucoup de témoignages qui les voient. Les lutins, oui, on continue à les voir longtemps, mais les fées, non. Il y en a un autre pont entre Saint-Amé et Saint-Étienne de Remiremont. Et celui-là, il est encore sur... il est pareil, il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et pour le coup, on peut le voir, c'est une grande muraille de pierre sèche qui barre la vallée entre ces deux villes. On ne sait pas très bien à quoi ça servait aujourd'hui, mais on le retrouve sur des plans cadastraux de façon assez ancienne. Donc on sait que c'est un pont ancien. Et enfin, pour terminer donc, les lieux, les eaux. Donc les eaux, il y a des régions où on a beaucoup de fées de fontaines ou des fées d'étangs, par exemple. Des fleuves dans lesquels il y a des sirènes. Dans la Garonne, par exemple, et dans le Gers, il y a des sirènes très méchantes, d'ailleurs. Des espèces de vampires qui sucent le sang des gens. Enfin bon, bref. Et donc, dans les Vosges, on en a peu. On a des fontaines. Alors, on a la fontaine dont je vous parlais, la fontaine aux fées Notre-Seigneur à Don Rémy. On a... Les autres, toutes celles que j'ai mises en bleu, toutes ces fontaines-là, n'ont aucune légende. Voilà, elles s'appellent fontaines aux fées. Quand on les relève dans le dictionnaire topographique de 1938, elles sont encore nommées fontaines aux fées, et précédemment aussi. Donc voilà. Mais on n'a aucune légende sur ces fontaines aux fées. qui n'ont pas été rebaptisés visiblement ou sur lesquels on n'a pas mis la petite statue de saint, etc. Il y a quelques ruisseaux défaits dans la forêt du Grand Valtin, d'Herbon-sur-Meurthe. On a un ruisseau qui se jette dans la Vologne qui s'appelle le ruisseau défait. Et on a d'ailleurs sur la rive droite de ce ruisseau un petit hameau qui porte le nom de hameau défait. Donc je regrette que voilà que ça soit pas plus grand et que vous puissiez pas voir les noms, mais on voit au moins, parce que ça m'a quand même demandé du temps de retrouver tous ces lieux. Moi je suis pas du coin, donc on a quand même une carte comme ça des masses sur laquelle je n'ai mis que les noms dans lequel il y avait fait, alors qu'il y a aussi beaucoup de bois des dames, de fontaines aux dames, etc. Mais la fontaine à la dame, ça peut être aussi une fontaine qui appartient à une dame du coin. Voilà, donc c'est le cas d'ailleurs pour une fontaine sur laquelle j'ai fait des recherches dans les Vosges, en essayant de remonter plus loin. Et effectivement, c'est une veuve qui était là, donc c'est la fontaine à la dame. Les noms de lieux, même s'ils sont un peu bizarres, portent très très souvent le nom des propriétaires. Et donc, voilà pour les faits. Et si vous avez des questions... eh bien, non, parce que c'est la... Non, j'ai pas de livre là-dessus. Non, moi, j'ai pas mis, non, dans les dictionnaires, je peux pas aller aussi loin. Là, j'ai vraiment travaillé que pour vous. Hein. Je vais pas aussi loin, je donne pas tous ces exemples, etc. Là, j'ai vraiment repris les documents, les archives que j'avais pour essayer de retrouver, voilà. Alors, la carte, si vous la voulez, moi, je vous l'envoie. Elle est à moi. Donc, avant de partir, vous me laissez votre adresse mail. Et voilà. Est-ce que je vous ai vraiment endormi, assommé? C'est la chaleur. Si vous avez des questions même qui sortent hein, par rapport aux croyances populaires, aux merveilleux du dictionnaire, etc., profitez-en. Ou liés aux fées, ou liés aux lutins, ou liés... Voilà, je peux vous dire quelques mots là-dessus. Et sinon, on se quitte amis quand même. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames.